Pour imaginer l'avenir, rien de mieux que de connaître le passé. Et justement, bonne nouvelle, c'est le but de l'émission « C'était mieux après ». Alors bienvenue dans CMA. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Les chroniqueuses et chroniqueurs de ce soir se posent tout le temps des questions, plein de questions. Mais ça vient d'où? Pourquoi on fait ça? Ça existe depuis quand? Alors ils détricotent l'histoire pour trouver les réponses et apprennent qu'il y a eu un avant et qu'il est souvent plus complexe qu'on ne le croit. Alors auditeurs de France et de Navarre, préparez-vous à remonter le temps. Et bien tiens d'ailleurs, avant de voir les présentations des sujets de ce soir, est-ce que vous savez autour de la d'où vient cette expression? De France ou de Navarre? Ça vous dit quelque chose?
Ben parce que le royaume de France est de Navarre.
Oui, c'est ça, les deux. Parce qu'en fait, ça veut dire que ça vient de partout, hein, de toute la France, même dans les coins les plus reculés. En fait, les contours de la France, ils ont changé, bien sûr, au cours des siècles. Et il y a des régions aujourd'hui françaises qui ne faisaient pas partie de notre pays. Et c'est le cas de la Basse-Navarre, qui se situe où?
Ben dans les Pyrénées.
C'est, oui. C'est ça, au sud-ouest de la France. C'est en partie dans les Pyrénées-Atlantiques actuelles, en fait.
Pays basque.
Ouais. Et en fait, Henri IV, qui succéda à... Henri IV, qui succéda à...
Henri III.
À François Ier.
Ah mais non, c'est ça, Henri III. Ah, non, c'est Henri III.
Comme tu posais la question, ça nous met le doute.
Je vois que vous doutiez, c'était terrible. Je dis, et ça commence très très mal. Hein. Émission historique, super. Bon, en fait, on l'appelait aussi Henri de Navarre et son nouveau règne rattache donc la province à la couronne. Et depuis, tous les rois de France ont été les rois de France et de Navarre, d'où l'expression pour dire qu'on n'oublie aucun territoire français. Voilà, je ne sais pas où vous allez pouvoir le placer hein, comme info pour vous la péter, mais maintenant vous savez. Allez, il est temps de connaître les sujets de la première partie de CMA. Elle aime se faire sauter.
Ça commence bien. Parle une plus.
Elle a frit, elle a tout compris. Pour mieux la connaître, il a hachi travaillé son sujet. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
De quoi tu nous parles ce soir?
Alors ce soir, je vous parle d'un voyage, d'une conquête, que dis-je, d'une grande histoire d'amour qui nous lie tous et toutes à Charlotte et Amandine, nos incroyables Miss Patates.
Oh.
Suivez avec moi la belle aventure de la pomme de terre.
D'accord.
Je crois que c'était le
bien.
Monsieur Patate dont tu voulais parler. Ouais.
C'est les Miss Patates.
Il y a quelques semaines, on a appris avec stupéfaction que l'instinct maternel était une invention des hommes pour laisser leur môme aux soins des femmes. Elle aime taper où ça fait mal. Et on va en prendre pour notre garade de ce soir. Bonsoir Pauline, quel est ton sujet?
Bonsoir, moi ce sera la manipulation dont tous les garçons qu'on subit depuis leur plus tendre enfance. J'ai nommé la masculinité toxique. Donc on va en parler en long en large.
Eh ben,
tenez-vous bien, restez bien assis.
Depuis plus d'un an, on larve sur nos canapés en matant des films sur nos petites télés. Mais si le cinéma n'est pas très cathodique, c'est mieux pour se projeter dans une histoire de la voir projetée sur un écran. Tu nous emmènes en salle ce soir, Olivier?
Oui, je vais vous parler du cinéma, mais... plus précisément à Angers.
Ah,
voilà,
l'histoire des
cinéma
d'Angers.
De cinéma Angers.
Ah, okay. Elle connaît la musique, pas forcément celle d'aujourd'hui, mais il arrive que le passé rejoigne le futur à travers un retour inespéré. Bonsoir Sonia, que va-t-on écouter ce soir?
Bonsoir à tous, bien effectivement ce soir on est raccord Bruno, puisqu'on va parler des comebacks, et plus particulièrement d'un comeback. Mais je ne vous dis pas plus, puisque ce sera à vous de trouver de quel comeback on parle.
De Baby
Peut-être aussi Baby Comeback. Ouais.
Bon, on vient de le voir, la première partie de CMA va être bien fournie, restez avec nous, car en deuxième partie, on parlera également de pétrole avec Jérémy, et même de château hanté avec Sandra. Mais pour l'heure, il est temps de découvrir les premières histoires de CMA. Il y a tant de jeux de mots à faire sur le premier sujet de ce soir, je préfère lui laisser la patate chaude. Voici la chronique de Florian.
Les pommes de terre, ça aime pas la lumière, à part les frites quand elles sont cuites.
Eh ben ça, c'est du jingle.
Toujours très à propos.
Ouais, c'est ça.
Alors, tout commence un soir de pleine lune de l'année 1532 à Cusco. Le tonnerre gronde et l'empereur Inca en a gros sur la patate. La première blague.
Oui, bah oui, c'est bon, on va aller toutes les avoir. Ouais. Ouais.
Les Espagnols chevauchent la cordillère des Andes depuis quelques mois et arrivent dans la ville de Cusco, donc. Le sort en est jeté, les Incas capitulent et offrent 6 tonnes d'or à Francisco Pizarro, ce conquistador dévoré par la quête de l'Eldorado. Les Espagnols repartiront donc avec ce trésor, mais aussi avec un autre trésor, le maïs, la tomate et la pomme de terre. Qui sont des légumes inconnus à cette époque, en Europe, où bien sûr on se régale de potées, de choux, de carottes, de navets, de tout ce qu'ils trouvent dans la terre, et bien d'autres choses. Voilà. Donc, c'est le début de l'histoire de la pomme de terre.
Et de la tomate, du coup. Je savais pas que la tomate n'était pas de
en
chez
Europe.
Nous.
Et d'autres ingrédients émets aussi qui seront utilisés aussi dans les déjeuners, les dîners.
Le ketchup.
Alors d'abord des cours européennes, des cours royales européennes, des monastères, et puis après, forcément, les privilégiés, et ensuite pour le bas peuple. mais les peuples du Pérou, eux, connaissaient déjà la pomme de terre depuis moins 10 000 ans, où ils ont progressivement domestiqué. Où ils l'ont progressivement domestiqué et où les pratiques de culture se sont affinées, ils ont réussi à rendre la pomme de terre comestible.
Et gentille. On la domestique. Parce que la sauvage, elle est agressive. Hein.
C'est, oui.
Ouais, oh, la patate sauvage.
Et donc, ils l'ont rendue comestible. Et oui, parce que la pomme de terre est toxique.
Ah bon ?
Et oui, elle est toxique. Oh, les feuilles, les bourgeons, les fleurs et les fruits ne sont pas comestibles. Et oui, parce que la pomme de terre fait des fruits. Enfin. Il y a des fleurs et des fruits aussi.
D'accord.
Sur la pomme de terre.
D'accord.
La pomme de terre elle-même n'est pas le fruit de la pomme de terre. C'est simplement un tubercule qui pousse dans la terre.
Mm-hmm.
Voilà. Et lui, il est comestible. Parce que beaucoup moins toxique que le reste de la plante. Donc on peut manger la chair et éventuellement la peau aussi, puisque la toxicité est plus basse. Et d'ailleurs, cette toxicité n'est pas éliminée avec la cuisson. Il faut une cuisson à plus de 200 degrés en fait, pour éliminer les toxines qu'il y a dans la pomme de terre.
Ah bon, parce qu'elle est quand même toxique alors ?
Oui, elle est toxique. C'est-à-dire que, bah, en fait, oui, avec des taux beaucoup, beaucoup plus bas dans la chair, en fait.
Mais encore à ce jour, si.
Parce si, encore aujourd'hui.
Ah oui.
Ah bon,
oui.
Même la bio et tout.
Alors, on peut pas mourir hein, si vous mangez une pomme de terre en entier comme ça, vous n'allez pas mourir. Hein.
Non, mais on nous aurait menti depuis tout ce temps, la patate est toxique.
Déjà tout à l'heure, la dernière fois, il nous a dit que les casse-croûtes avec du pavot dessus, c'était toxique. Tout est toxique avec toi.
Eh bien, écoutez, là, la pomme de terre, ça l'est. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que ça a fait peur aux Européens quand la pomme de terre est arrivée sur le territoire de l'Europe. Et donc, elle a eu beaucoup de mal à gagner ses lettres de noblesse en Europe et à s'imposer comme un aliment incontournable, puisqu'aujourd'hui, on l'a quand même un peu partout. Donc, durant 3 siècles, sa diffusion est progressive et va de rebondissement en rebondissement. Elle trouve d'abord un fort écho en Espagne, forcément, puisque importée par les Espagnols d'Amérique du Sud. En Angleterre aussi, elle se diffuse. D'ailleurs, donc, en Espagne, on l'appelle patata, et en Angleterre, on l'appelle...
Potatoes.
Potato, voilà.
Potato.
Et donc ça vient
potato
du...
et potata.
Voilà. Et donc ça vient du mot inca en fait pour désigner la pomme de terre. Il l'appelait papa.
Ah.
Et donc papa, les Espagnols, je sais pas, quelqu'un leur dit papa patata. Bon voilà. Après ça c'est.
Heureusement qu'ils ont changé. Hein. Ça aurait été un petit peu compliqué en France. Hein. On va aller bouffer papa.
J'avoue. Donc les Espagnols, les Anglais, ensuite ça va en Italie. Ou alors les Italiens, eux, ils appellent ça la truffe de terre. Voilà. C'est pas con, hein, la truffe.
Tu peux la vendre plus cher.
La terre, forcément. Mmh. Hein. C'est ça. Déjà à cette époque. Et puis après, il y a les Savoyards aussi qui la récupèrent. Et eux, ils la nomment la cartoufle.
Bien sûr.
Et donc, truffe de terre, cartoufle, en fait, tout ça a donné en fait, des dérivés dans d'autres langues. La langue allemande, où la pomme de terre, ça, c'est kartoffeln. Voilà, c'est des dérivés. Donc, soit... on l'appelle patate, soit on l'appelle cartoufle.
D'accord.
Toutes les langues européennes se sont construites comme ça, soit l'un, soit l'autre. Mm-hmm. Et nous, on appelle ça la pomme de terre ou une patate, d'ailleurs.
Aussi.
Alors, ce n'est qu'en 1620 qu'elle commence timidement à apparaître dans les sols français pour nourrir les animaux.
Ah,
ah oui, parce qu'il ne faut pas non plus...
C'était dangereux, donc du coup, on finit ça aux animaux, on ne sait jamais.
C'est ça, il ne faut pas aller trop vite. D'abord, on en donne aux animaux, comme ça, s'ils meurent, c'est très bien. Mais nous, pas encore. Donc, la patate serait vecteur de la lèpre. C'est ce qu'on pense à l'époque.
Mm-hmm.
Pire encore, elle pourrait être à l'origine de la diffusion de la peste. Notamment en 1722, où à Marseille, il y a un épisode de peste, en fait, et où certains intellectuels de l'époque ont dit que c'était à cause de la pomme de terre qu'il y avait la peste à Marseille. Bon, du coup, sa culture est interdite, notamment dans le nord de la France et en Île-de-France. Que d'accusations qui sont balayées par la faculté de médecine de Paris en 1772. Donc vous voyez un peu le temps que ça a mis. Ça arrive au XVIe siècle. On est déjà 150 ans plus tard. Et donc la faculté de médecine de Paris dit qu'en fait elle est tout à fait comestible, alors certes toxique, mais comestible, et on peut en manger autant qu'on veut. Et donc d'ailleurs il y a certains savants de l'époque qui en font un peu un cheval de bataille, dont le célèbre
Parmentier,
Antoine Parmentier, qui n'a pas lâché la patate de toute sa vie. Il organisait même des dîners avec des célébrités de l'époque, justement pour faire voir que ils en mangent.
Des influenceurs de l'époque.
Tout à fait. Donc il y avait Lavoisier.
Il avait combien de followers, Parmentier?
C'est ça, ouais.
Il avait pas mal. Bilal, Oana.
Non, mais allô, quoi. Donc voilà, donc c'était assez sympa, des petits dîners pommes de terre. Bon, alors, petite fierté angevine, hein, l'Anjou n'a jamais arrêté de cultiver et de manger la pomme de terre, au même titre que les Alsaciens, les Lorrains, les Savoyards et les gens du Midi, voilà. Donc ça a été interdit dans certains secteurs de la France, mais il y a certaines provinces qui ont continué à...
L'Anjou est tendance.
À en manger, tout à fait. et puis ça, alors c'est à partir du XVIIIe siècle, hein, que les choses deviennent sérieuses avec la multiplication des variétés. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez des variétés de pommes de terre,
hein? La Charlotte, la Binche,
la pomme de terre de Noirmoutier.
Alors, ouais. Noirmoutier, elle s'appelle la Bonnotte de Noirmoutier.
C'est la meilleure.
Donc il y en a plein.
Il y a la rate. La rate, l'amandine, la Roseval, la Vitelotte, la Belle de Fontenay, la Chérie et la Pompadour.
Ah, je connaissais pas la Chérie.
Et d'autres encore. Hein. Bon alors, la pomme de terre est aujourd'hui présente sur tous les continents maintenant. Elle est transformée de diverses façons, que ce soit dans l'alimentation, l'industrie, la papeterie, le textile, la boisson, puisqu'une célèbre boisson est faite à partir de la pomme de terre, qui est donc la vodka.
La vodka, c'est un alcool
issu de la pomme de terre. À votre avis, où est-ce qu'on cultive aujourd'hui le plus la pomme de terre?
Chez McDo.
Les jardins potagers.
Dans quel pays?
Le bon sens de Pauline.
Dans la terre, oui, certes.
L'Espagne.
Alors non. C'est non. En Chine. Ça représente 25% de la production mondiale. Donc c'est quand même 370 millions de tonnes par an.
Ils ont des bouches à nourrir.
Donc la Chine en premier, l'Inde, la Russie, et nous, c'est 2% de la production.
Ah oui.
La France. Voilà.
Donc ça, c'est. Qui c'est qui a inventé les frites, du coup? C'est les Belges ou c'est les Français?
Je pense que ce sera une prochaine chronique.
ça sera un débat. Ça sera un débat intéressant pour une prochaine nuit d'anniversaire de Radio G. Et qui sont les plus gros consommateurs de pommes de terre au monde?
Les Belges.
Non. Bruno. Alors par kilo, par an, par personne.
Oh la vache.
Si c'est la Chine, peut-être?
Alors, non, parce qu'ils en produisent beaucoup, mais comme ils sont beaucoup, forcément par tête, ça fait pas beaucoup.
Ah oui. Alors les Américains?
Et non, ce sont les Ukrainiens.
Ah bon?
Qui mangent 140 kilos de pommes de terre par an et par personne.
Ah oui, quand même. Hein.
Et oui, ensuite, c'est les Polonais, 130 kilos, les Russes, les Anglais.
Enfin, s'ils comptent la vodka comme manger de la pomme de terre, je comprends.
C'est ça.
C'est pas cher aussi, j'imagine, en termes de coût.
Alors oui, la pomme de terre, c'est effectivement pas très cher.
L'aliment de base.
Et donc, nous, en France, on en mange plus que les Américains. On en mange 64 kilos par an et par personne, et les Américains sont à 63.
Ouais, c'est pas mal déjà.
À un kilo près. Donc voilà, donc on dit merci aux Incas, même si ça a coûté un bon génocide quand même aux Incas, de récupérer tout ça.
C'est sûr.
Donc on dit merci aux Incas, et c'est quand même mieux après.
Oui, tu as bien raison. Merci Florian. Dans un instant, on vous emmène à la découverte des salles de cinéma et on vous parlera d'une saga musicale incroyable. Mais pour l'instant, c'est Girl Power dans CMA, et ça va faire mal. Voici la chronique de Pauline. Toxique.
Ça aurait pu aller aussi à Florian.
Oui, c'est ça.
Oui, finalement. Allez, ne pleure pas. Fais pas ta gonzesse. Montre que t'en as dans le pantalon. Cette douce musique que certains enfants, même de primaire, peuvent entendre tous les jours de la part de copains, de copains, même de leur famille. Tout ça, c'est... Bon, je vous l'apprends pas, hein, c'est rituel, c'est habituel. Et donc, ça témoigne déjà de la masculinité toxique dont je vais vous parler. Puisqu'on voit bien que là, il y a le patriarcat qu'on connaît tous se met bien en place dès le début. En fait, depuis l'Antiquité, la virilité ou la masculinité, hein, parce qu'ils sont synonymes d'après le Larousse. Donc la virilité repose sur la force et l'héroïsme et la puissance sexuelle. Et donc, dès le départ, depuis le début de l'histoire, donc c'est les instituteurs, les maîtres, les curés, les mères, les pères qui contribuent à faire voilà, du petit garçon un homme, un vrai. Les pensionnats et les scoutismes, et le scoutisme, ça a été vraiment des vrais laboratoires de virilité. Et puis aujourd'hui, on a les clips, les séries, les films qui continuent à renforcer cette virilité, cette image virile que tout homme doit avoir.
T'as raison.
Et donc cette éducation finalement masculine, elle est vraiment insidieuse parce qu'il y a pas de manuel en fait pour savoir vraiment comment se comporte en tant que homme ou garçon. Donc c'est vraiment à travers ces rituels là que ça s'installe insidieusement dans tous vos cerveaux de mecs. Et donc jusqu'au Moyen-Âge, on pouvait exprimer, par exemple, ses émotions, qui est un des piliers aussi de la masculinité. Finalement, l'émotionnel ne peut pas rentrer en compte, finalement. On doit le cacher. Et ça appartient à la sphère du privé depuis l'époque du romantisme. Et donc là, voilà.
Les femmes ont le droit de pleurer encore, mais pas les hommes, c'est ça.
Voilà, finalement, on attribue un sexe à chaque émotion, quasiment. Et donc les hommes, ils sont plutôt centrés. Voilà, on leur dit, bah non, il y a la colère qui peut être acceptée, mais voilà, tout ce qui est tristesse ou ça, c'est vraiment centré sur les filles. Et donc c'est plus communément admis pour les filles.
Tu dois être fort.
Voilà, tu dois être fort. Et c'est l'avènement de la bourgeoisie, en fait, qui renforce cette scission entre la sphère publique et privée autour des émotions.
Donc effectivement, oui, ça doit gêner la construction mentale de l'enfant. Donc ça change un peu ou pas?
Eh bien, ça change un peu, comment tu...
Ben, est-ce que dans l'avenir, les nouvelles générations, ça va changer ou est-ce que...
Alors, il y a des solutions et je vais y venir dans quelques instants. Mais c'est vrai que ce qu'on peut voir, et là où c'est vraiment toxique, c'est que ça crée de véritables souffrances et que ça coûte cher à la société et aux hommes.
Est-ce qu'on va en plus de mouchoir, c'est ça?
Non, mais exactement. Non, il y a des chiffres totalement impressionnants. Notamment, donc, on a eu des recherches depuis 10 ans et on sait que 80% des élèves sanctionnés et 91% de ceux qui sont punis pour violence, donc en primaire, sont des garçons. On a aussi 75% des morts de la route sont des hommes. 92% des personnes qui se tuent en deux roues sont des hommes. 92% des conducteurs impliqués dans un accident mortel.
Et pour ça viendrait de l'éducation pour leur dire qu'ils sont mal et ils doivent aller vite, quoi.
C'est quand même on pousse à la performance, on pousse au fait de finalement de ne pas suivre les règles, puisque c'est montrer que t'as des couilles de pas respecter les règles et finalement d'être dans l'interdit.
Qu'il y a un problème. Pour finir, qu'il y a une solution?
Pour finir, les solutions, c'est reconnaître aux garçons leurs émotions, travailler sur l'empathie et pleurer, c'est essentiel, c'est même sain, c'est pas pour ça qu'on est des mauviettes. Bannir toutes les phrases comme sèche tes larmes, allez, c'est rien, arrête de pleurer. Et donc, on ne soutient pas assez nos hommes, nos garçons dans leur émotion, plutôt que ça donne des malaises, des souffrances et que tout le monde se cache ses soies pour pleurer. On peut éduquer nos garçons justement à cet émotionnel, à faire des check-up émotionnels.
Bon, alors moi, ce que je retiens, c'est que pleurer nous évitera plus tard d'avoir des accidents de la route. J'avais pas fait exactement le rapprochement, mais je suis d'accord.
Ça évitera des séances de thérapie plus tard.
Surtout, je pense, au niveau des enfants, t'as raison.
Ouais. Ah oui.
On va peut-être, un père va obliger son fils à faire du foot, alors que lui voudrait être danseur.
Alors ça, c'est exactement. Autre chose, effectivement. Oui, ça fait partie de ça, effectivement. Ça peut aussi.
Il se construit autour de ça, donc après, les conséquences, elles sont nombreuses et diverses, d'ailleurs. Mais effectivement, la base, c'est ça.
Très bien, merci. Merci Pauline.
J'avais un petit slogan.
Ah, vas-y.
Soutenons émotionnellement nos garçons, ça leur évitera potentiellement de faire les cons. Voilà.
Ah oui. T'aurais pu nuire, ça les rendra moins cons. Hein. Ça marche aussi hein, quand même. Hein.
Ah bah ça, c'est pas sûr. Mais...
Allez, avant de retrouver Olivier pour l'image et Sonia pour le son, on va répondre aux questions que vous nous posez sur le site radio-g.fr. Cette fois, c'est Quentin de Nantes qui nous demande où est le Graal. Voici la réponse du Graal, justement.
Question de Quentin de Nantes. Où est le Graal ?
Eh, t'as du bol, Quentin. Je connais la réponse. C'est au Moyen-Âge, il y a 900 ans, que le roman Perceval ou le Conte de Graal apparaît. On y parle d'une vasque magique, version celte de la corne d'abondance grecque, distributeur automatique et inépuisable de nourriture et de boissons. Le mot Graal viendrait du latin de l'époque gratella, qui veut dire vase. Mais d'autres pensent qu'il viendrait du mot grasal, un plat creux. Pour en revenir au livre qui forge sa légende, son auteur meurt avant de le finir. Beaucoup ont refait l'histoire, transformant même ce Graal en Saint Graal ayant reçu le sang du Christ et donnant la vie éternelle, soignant par là même le père d'Indiana Jones. Bref, Quentin, tout comme Arthur, le Graal n'est que dans notre imagination. Et ce, depuis plus de 1000 ans. Si tout comme Quentin, vous avez une question à nous soumettre, et bien même la plus insolite ou originale, rendez-vous sur la page du Graal dans les podcasts plus du site radio-g.fr. Vous êtes toujours sur les 101.5 de Radio G ou sur fréquence-g.com et vous nous écoutez dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. On a parlé de pommes de terre et des hommes, ça pourrait même faire un titre de film, et c'est justement du cinéma qui va être question maintenant puisqu'il nous emmène dans les salles. Voici la chronique d'Olivier.
Le cinéma, tout le monde aime ça. On mange du popcorn et on boit du soda.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est le...
Oui, je voulais vous parler du cinéma angevin. Alors moi, quand je suis arrivé sur Angers, il y avait trois salles au boulevard Foch qui n'existent plus. Hein.
Voilà. Ariel.
Il y avait l'Ariel, le Variété, le Colisée. Mmh. Et puis encore avant, il y avait d'autres salles que je vais vous dire. Quoi. Mais voilà, c'est le cinéma angevin, c'est sans cesse des cinémas qui ouvrent, qui ferment. Voilà. Alors, l'origine du cinéma à Angers, il faut remonter en 1896. Alors, il faut savoir que M. Gano était propriétaire du Café du Théâtre. Le Café du Théâtre, c'était un café qui était juste à gauche du théâtre Place du Ralliement.
D'accord.
Donc, c'était le Café du Théâtre. Et puis, donc, il y avait une salle au premier étage. Et bien, M. Gano a loué sa salle en 1896 aux Frères Lumière. Et donc, il y a eu les toutes premières projections du cinéma dans cette salle du premier étage.
C'est là qu'il y a Néo Coach, c'est ça ?
C'est là qu'il y a Néo Coach. D'ailleurs, on remercie nos amis de Néo Coach.
D'accord, juste au-dessus de Nature
et Découverte. Voilà, et on fait du sport là où il y a eu la première fois un cinéma à Angers. C'est quand même incroyable.
Dingue, ça.
C'est une autre forme de salle. Hein.
Ben, oui. Et tous les soirs, pour un franc d'entrée, les angevins applaudissaient les scènes célèbres de l'arroseur arrosé, les bains de mer ou le train qui arrive à la gare de la Ciotat. Après, c'est vraiment les cafetiers et les forains qui ont diffusé des films. Donc, il y avait le Café du Ralliement, le Grand Hôtel, qui, début des années 1900, projetait à l'extérieur des films de cinéma, des petits courts-métrages, à tel point que la police devait souvent intervenir parce que les gens amenaient des chaises, des bancs, des petits fauteuils et se mettaient sur les rails du tramway. Et à chaque fois, la police devait venir pour dégager les personnes. Le premier vrai cinéma, il a été créé le 15 décembre 1907 et c'était un cinéma permanent dans les locaux du Cirque Théâtre. Le Cirque Théâtre était situé place Molière, donc il était là où il y a actuellement le marché bio. C'était juste devant le Crédit Mutuel actuel.
D'accord.
Quoi.
C'est une grande salle ronde, c'est ça ?
C'était une grande salle, une rotonde, le Cirque Théâtre. Après, en 1908, il y a eu les Fantasy Cinéma, qui étaient dans le bâtiment des Galeries Lafayette. C'était un grand hôtel. Il y avait une galerie marchande qui passait à travers le grand hôtel. Et puis, il y avait une petite salle qui s'appelait les Fantasy Cinéma. C'est un des premiers cinémas à Angers. Et puis en 1915 a été créé le Cosmorama, boulevard de Saumur. Boulevard de Saumur, c'est l'ancien nom du boulevard Foch. Voilà. Mmh. Jusqu'en 1929, c'est l'industriel Joubert qui avait créé ce cinéma. Donc il s'appelait le Cosmorama et après il s'appelait les Variétés. Et ça a été un des plus grands cinémas d'Angers puisqu'il avait 870 places. Donc ça jusqu'en 2000, où il a été fermé. En 1922, rue Louis Romain, alors ça je ne savais pas, Il y a eu le cinéma Familia qui est devenu le Palace. Vous savez, le Palace, là en face de la Poste, là, où il y a François
Zir. En art déco, là.
Complètement art déco. Ben, ça, c'était un cinéma. Il y avait 1200 places dans ce cinéma. Ça a été le plus grand cinéma en juin du XXe siècle. Voilà, Silard Déco, construit par René Brault, un superbe bâtiment. Enfin, voilà. Il y avait un grand lustre. Il est vraiment très, très beau. Hein. Il y avait un grand lustre dans la salle de cinéma. Quand on regarde les photos, c'est vrai que ça a l'air exceptionnel. Après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une explosion des salles. Et on a compté plus de 15 salles sur Angers. Alors, il y avait toujours ce que je vous ai cité, mais il y avait aussi l'Élysée, avenue Patton.
Alors ça, vers le théâtre,
moi j'ai connu ça, il y avait...
Oui, effectivement.
Quand j'étais étudiant, 91, quoi, c'était un amphi pour la fac, mais avant c'était un cinéma.
Et ça a été aussi un théâtre?
Oui, aussi. Il y avait le Palace, donc j'ai dit rue Louis-le-Romain, il y avait quoi? Il y avait le Beau Repère, boulevard du Ménil, l'Étoile, rue Henri-Fournier, le Pax, rue du Champ de Bataille, le Pélican, place du Pélican, l'Impérator, rue Gattargent, le Familial, rue d'Antioche, l'Anjou, place Ney, le Rex, rue Château-Gontier... Il y avait aussi le Vauban, avenue Vauban, le Paris aux Justices. Vous voyez, plein de cinémas.
Des petits cinémas de quartier.
Petits cinémas de quartier. Et puis en mars 1982, eh bien, c'est la création du fameux cinéma Les 400 Coups, rue Claveau.
82.
Voilà. Qui s'est agrandi petit à petit.
Ils vont fêter leurs 40 ans l'année prochaine.
Exactement, ouais. On a 400 coups, 40 ans. Je pense qu'on va avoir des beaux spectacles. Au début, moi, j'ai connu l'agrandissement. Au début, il n'y avait que 4 salles. Hein. Mm-hmm. Et puis, on est monté à 7 salles récemment. Donc, assez important. Faut savoir que Boulevard Foch, dans les années 80, années 90, c'était là où ça se passait. Donc, à l'aube des années 2000, Ariel, Colisée ont fermé, les variétés ont fermé en 2013. Et puis, en l'an 2000, en décembre 2000, il y a eu la création du Gaumont Multiplex, qui est devenu le Pâté. Et après, à côté d'Angers, il y a eu aussi le cinéma Cinéville des Ponts de C. Voilà.
Eh ben, quelle aventure pour tout ce cinéma. Merci Olivier. Et puis félicitations, puisque lors de la dernière émission, on a appris que c'était ta chronique sur la saga des films Dune qui avait été publicitée par les auditeurs pour être dans CMA+, les podcasts du site de Radio G. Et tu rejoins donc Manu avec ses huîtres, Sandra avec son stylo et Sonia avec son Bella Ciao. Ah. Tu es le premier homme à fouler d'ailleurs la page CMA+, sur les podcasts plus. Alors ce soir, on va d'ailleurs découvrir en fin d'émission qui aura été sélectionnée comme meilleure chronique par les auditeurs parmi celles de la dernière émission. Suspense. Mais revenons au programme du jour, puisqu'il est temps de parler de musique avec notre spécialiste, et ce soir, j'avoue que je suis complètement content, car j'aime bien son sujet. Voici la chronique de Sonia.
Une fois n'est pas coutume. Eh bien oui, bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous parler du business, des comebacks. Alors, mais de quel comeback parle-t-on? Mais de quel comeback parle-t-on? Là est la question. Alors ce soir, j'ai décidé de dédier ma chronique à notre boss préféré. Vous l'aurez tous deviné, bien sûr, il s'agit de Bruno. Et déjà, quand je dis ça, peut-être autour de la table, ça vous donne déjà des petits indices.
Sur les comebacks.
Alors, selon vous, quel artiste ou groupe a-t-il annoncé son grand retour, et cela pour la plus grande joie de notre Bruno?
Ah oui, je sais.
Petite idée? Allez-y, vous pouvez lancer.
ABBA?
Pourquoi pas?
Coldplay.
Alors, après Téléphone... Alors, on peut... Vas-y, donne-nous un petit indice, déjà.
Ah, je peux?
Vas-y.
Petit indice. Alors, Sonia tousse un peu, elle est malade. Reviens, c'est ça.
Tout petit indice. Alors effectivement, après Téléphone et même les Spice Girls, et comme tant d'autres, je n'ai que deux mots à dire.
Ah.
Eh bien oui, le groupe mythique ABBA se reforme. Alors là, clairement, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître.
Merci.
Car vous l'aurez compris, 40 ans après leur séparation et leur dernier disque, qui était The Visitor, le groupe pop suédois, donc ABBA, a annoncé son retour, qui est semble-t-il très attendu encore maintenant, en studio. Alors, le 5 novembre dernier, est sorti leur nouvel album de chansons originales qui s'appelle Voyage.
Voyage.
Et en voici donc un titre que je vous propose d'écouter un petit peu déjà. I still have faith in you. I still have faith in you.
and I will say, I never really thought I'd feel this way, but I remind myself of who we are, how inconceivable it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share.
Donc il s'agit de I Still Have Faith in You, un de leur nouvel album. Donc il y aura une dizaine de chansons sur ce nouvel album. Alors quand même, et là je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cerise sur le gâteau, au-delà de faire un album, il va y avoir aussi
l'Eurovision.
Aussi, mais il va y avoir
des films.
Non, concert.
Oh, non.
Eh bien,
tournée.
Si. Alors, pour tous les fans du groupe qui vont pouvoir renfiler leurs pattes d'eff, un concert digital aura lieu à partir du 27 mai 2022 à Laba Arena. Eh bien oui, puisque en fait, il y a une salle de concert spéciale qui a été construite, hein, de 3000 places, qui a été construite spécialement pour l'occasion et donc qui se trouve à Londres. Donc les spectateurs pourront y découvrir des avatars. Le petit jeu de mots, c'était avatar, mais des... Excusez-moi, avatar, je me suis dit, je me lance.
Oui,
je tente.
Pourquoi pas.
Parce qu'en fait, ce sera des hologrammes, hein, ce ne sera pas eux. Ce sera les hologrammes qui vont les représenter, eux, un petit peu plus jeunes. Donc on retrouvera Agnetha, Bjorn, Benny et Anni-Frid. Et Anni-Frid qui seront accompagnés donc, d'une dizaine de musiciens et on pourra donc les voir sur scène. Mais
et pourquoi ils ne vont pas chanter eux-mêmes?
Alors, bah, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu. Ils ont entre 76 et 71 ans.
Ah oui.
Donc c'est vrai que tenir la cadence, ouais. Voilà, et puis bah, ils sont plus à leur même apogée. Donc voilà, ils ont décidé, hein, c'est peut-être. Pour certains, une déception, mais en tout cas, voilà, de fonctionner sur le mode...
Puis ils ne s'entendent plus très bien non plus.
C'est vrai ?
Oui. Ah, bon. Ça, c'est vraiment la dernière fois, la der des der.
Bruno, il a des infos qu'on n'a pas. Alors quand même, un petit retour pour les quarantenaires qui ne connaîtraient pas Abba. Donc, ils étaient quatre, hein, quatre compères qui s'étaient rencontrés à la fin des années 60. Ils étaient en couple, ils étaient même mariés. Et ils ont connu leur succès planétaire avec, à partir de l'Eurovision 74 avec leur tube Waterloo. Et donc depuis leur dernier album studio qui était sorti en 81 et leur séparation en 82, le légendaire groupe de pop aux dizaines de millions d'albums vendus n'avait plus sorti de nouveaux morceaux, donc c'est vraiment la première fois. Et pourtant, vous avez pu, on peut le constater, la flamme n'est pas éteinte parce qu'ils sont toujours autant écoutés. Pour preuve, leur best-of Abba Gold, qui était paru en 92, est devenu un des disques les plus vendus dans le monde. C'est pour vous dire que malgré tout, tant d'années encore après, ils ont vraiment marqué leur génération. Et la génération future, puisque la comédie musicale Mamma Mia et les films qui ont suivi ont attiré donc des nouveaux fans qui n'étaient pas nés lors de leurs heures glorieuses. Et voilà, maintenant, ils connaissent normalement Abba. Alors on peut le dire, les Suédois sont toujours quand même des stars en 2021, en seulement 10 ans de carrière, pas plus. Ils ont créé des tubes à l'appel et ils ont vendu 400 millions d'albums.
Eh bien, très bien, merci Sonia. Et pour compléter ta chronique, on va juste écouter un peu du dernier titre d'Abba. Restez bien avec nous, car dans un instant, nous partons à la découverte du pétrole. On vous emmène dans les châteaux hantés. Eh bien, à tout de suite dans CMA. Voici Abba avec Don't Shut Me Down. C'était Abba avec Don't Shut Me Down sur Radio G 101.5 FM et fréquenzy.com. Ce soir, on a parlé de pommes de terre, de toxicité masculine, de salles de cinéma et du retour d'Abba. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voici la deuxième partie de CMA. Il a creusé profond pour trouver sa chronique. Il a trouvé le bon filon, même si son or est noir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jérémy, pardon. De quoi nous parles-tu ?
Eh bien, d'énergie solaire.
Ah bon ?
Si, si. Vous verrez.
Oula, bon. Ils naissent quand c'est la fin. On ne peut les imaginer. Sandra, pourtant, c'est Sandra qui nous en parle. Bonsoir Sandra. Quel est ton sujet ce soir ?
Bonsoir. Ce soir, vous allez frissonner. Calez-vous bien dans votre fauteuil. Les fantômes arrivent.
Il est donc temps de remonter aux origines des choses. Voici la deuxième partie de CMA. C'est moche et ça pue, et pourtant ça a réussi à se rendre indispensable. Je ne parle pas du chroniqueur, mais de son sujet. Voici la chronique de Jérémy. Il y a un petit indice apparemment dans le générique là. Hein.
Je ne l'ai pas, désolé.
C'est Dallas.
Ah d'accord. Alors ça a commencé aux États-Unis et pas spécifiquement à Dallas. Donc comme la profondeur de ta présentation le laissait deviner, Bruno, effectivement je vais vous parler aujourd'hui de pétrole.
Ah.
Le pétrole qui remonte, mes chers auditeurs et chers chroniqueurs, à très très longtemps, hein, puisqu'on parle de quelque chose qui s'est formé entre 20 et 200 millions d'années. Donc ça fait moult air que ce pétrole attend sous nos pieds. Pétrole qui s'est formé à partir donc des matières organiques de l'époque. Donc même si l'image est assez sympathique de dire qu'on fait rouler nos voitures au jus de dinosaures, en réalité c'est plutôt du jus d'algues et de plancton qui s'est donc décomposé et qui a formé du pétrole. Mais ce plancton, me direz-vous, d'où venait-il ? Eh bien, il venait, entre autres, du soleil qui l'a fait pousser. Et donc, en fait, le pétrole qu'on trouve sous nos pieds n'est autre que de l'énergie solaire fossilisée.
Ah.
Et une énergie eh bien, renouvelable, hein, puisque du pétrole, il va continuer à s'en former et on en aura toujours d'autres.
Enfin, ça prend quand même du temps à en faire, non ?
Ah, c'est peut-être ça le problème. Effectivement, quand on parle de renouvelable aujourd'hui, implicitement, vous l'avez compris, c'est renouvelable sur la durée d'une vie humaine. Et effectivement, 20 à 200 millions d'années, ça laisse le temps de s'ennuyer quand même. Ce qui fait qu'il y a débat aujourd'hui d'ailleurs sur l'utilisation de la biomasse bois, puisque on en a, c'est renouvelable certes, mais un bon chêne de 200 ans, on est un petit peu au-delà quand même d'une vie humaine. Mmh. Donc à force d'en brûler aujourd'hui, même si on en fait pousser beaucoup beaucoup, ça reste compliqué. Alors où est-ce qu'on en... comment on en est venu à utiliser ce pétrole? Donc on en a parlé lors de la dernière chronique sur l'automobile notamment, puisque c'est ça qui a fait décoller l'automobile avec les moteurs à explosion. Mmh. En fait, c'est quelque chose qui est connu dès l'Antiquité, hein, puisque les puits de pétrole, avant qu'on cherche à creuser de plus en plus loin pour le trouver, étaient affleurants à la surface de la Terre, et donc on avait des flaques, concrètement, de pétrole qui étaient disponibles, et donc nos ancêtres s'en sont servis pour faire notamment de l'étanchéité et de la lubrification. Et on s'en sert encore aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'usages du pétrole qui sont non énergétiques.
Oui, les routes et tout ça, c'est ça.
Notamment, effectivement, les routes, mais on a toute la pétrochimie, notamment pour les médicaments, pour le plastique, voilà, qui sont le chewing-gum, exactement, qui sont des usages, on dirait, raisonnables du pétrole, puisque ça évite de le gaspiller en le brûlant. Tout a explosé au 19e siècle avec la découverte de pétrole abondant, pas à Dallas, mais en Pennsylvanie, à Titusville, pour être exact, pour le premier puits industriel de la Pennsylvanian Rock Oil Company,
yes.
Associé à la découverte de la distillation industrielle par un autre chercheur, qui a permis de démontrer qu'on pouvait très facilement et en très grande quantité raffiner le pétrole pour en faire tous les usages qu'on y connaît. Puisque le pétrole en lui-même, on ne peut pas faire grand-chose avec, c'est composé d'énormément de composés moléculaires différents, et donc il faut le raffiner pour séparer tout ça et en faire depuis l'essence de nos voitures jusqu'aux médicaments qui sont également à base de pétrole. Et donc ce démarrage industriel a fait passer le baril de pétrole de 20 dollars à 11 centimes de dollars. Et donc là, oui, comme c'était accessible à tout le monde s'en est emparé. On s'est mis à le brûler sans se poser trop de questions et à remettre dans l'atmosphère tout le carbone qu'il contenait. Puisque c'est une énergie renouvelable finalement, c'est pas si grave, c'est un peu long, mais quel est le problème ? Eh bien finalement, le problème derrière le pétrole, c'est ce qu'on va appeler le déséquilibre carbone. Puisque finalement, en relarguant tout ce carbone dans l'atmosphère, on va se retrouver avec un climat similaire à celui qui avait cours lors de la formation du pétrole. Un climat qui n'était pas si mauvais que
c'est
ça.
C'est une boucle.
Il faisait chaud,
très chaud.
Les mers étaient hautes, voilà. Mais vous l'aurez compris, la Terre s'en sortira très bien. C'est plutôt de notre côté qu'il va y avoir un problème. Alors pour ceux qui pensaient que le pétrole se tarirait peut-être avant que le climat ne bascule complètement, sachez qu'aujourd'hui seulement 35% des gisements actuels sont utilisés. Donc on est très très loin d'avoir fini, et la rareté du pétrole aidant, aucun doute que le dernier baril de pétrole, l'avant-dernier plutôt baril de pétrole, servira à extraire le dernier. C'est encore quelque chose qui n'est pas une science exacte, hein, puisque la petite anecdote de la fin, c'est que sur les forages qui sont effectués, il y a encore 2/3 des forages qui ne donnent pas suite. Donc on a beau chercher du mieux qu'on peut, de bien regarder la géologie du sol, deux fois sur trois, et bah pas de bol, il n'y a rien au bout.
Mais quand il y a, c'est vraiment le...
Eh ben,
bingo,
on essaie d'aller jusqu'au bout, et malheureusement, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions.
Très bien. Merci Jérémy. Il est temps de retrouver le Graal, cette pastille qui répond aux questions que vous nous posez sur le site radio-j.fr.
Question de Yannick Danger. Où peut-on acheter de la drogue ?
Mais bien sûr, mais de mieux en mieux vos questions. Mais au risque d'être arrêté, je vais te répondre, car j'ai une bonne adresse. Bon alors Yannick, tu peux acheter de la cocaïne pure au magasin Harrods, le grand magasin londonien. Bon, je t'ai dit où, mais pas quand. En effet, la cocaïne était en vente libre en Angleterre jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il faut dire que maintenant, on connaît mieux les dégâts de ces substances sur notre cerveau. Car outre le fait qu'elles sont addictives, elles nous détruisent également physiquement. Donc Yannick, va plutôt t'acheter des sucettes. Hein ? C'est mauvais pour les dents. Bon ben, prends-en aux légumes. Bon, ok, c'est dégueulasse, mais c'est bon pour la santé. Le prochain sujet va nous emmener vers les plus grands moments de Tendance à me plaire. C'était l'émission qui était ici, même la saison dernière. L'occasion pour nous de saluer Raphaël, son créateur, qui anime aujourd'hui une émission qui cartonne. C'est Instant Complice sur Radio G, le mardi à 13h et en podcast sur radio-j.fr. Donc oui, il va adorer le sujet suivant. Voici la chronique de Sandra.
Auditeur, êtes-vous là? Ce soir, je vais vous parler des formes évanescentes, vaporeuses qui flottent dans l'air. Ce n'est pas de la fumée de cigarette qui emplit l'espace de ces volutes, mais bel et bien de fantômes. Auditeur, êtes-vous toujours là? La question en fait que tout le monde se pose, c'est est-ce que les fantômes existent? En fait, à en croire son étymologie latine, qui est fantasma. En fait, fantasma se rapproche du mot fantasme, donc on pourrait se dire que les fantômes ne sont que des hallucinations, et n'ont rien de réel. D'ailleurs, les fantômes ne sont pas à proprement parler, puisqu'en fait, ils apparaissent. Vous voyez, ils ne sont pas, du verbe être, quoi. Ils apparaissent sous une forme vaporeuse, immatérielle. On peut en fait les ressentir, mais on ne peut pas les toucher, par exemple. Ils sont une manifestation surnaturelle d'une personne décédée, souvent dans des conditions tragiques, voire des amérantes, comme on dit. Donc traditionnellement, le fantôme est souvent représenté par un drap blanc et une chaîne aux pieds depuis le XIIIe siècle. Et le drap blanc était un suaire qui enveloppait les morts. Et la chaîne, en fait, symbolise le lien qui retient l'âme, en fait, du défunt à la terre. Mmh. Et qui l'empêche, du coup, d'aller dans l'au-delà. Donc il y a plusieurs raisons à cela. En fait, c'est à l'idée qu'en fait, le défunt, il y a le chagrin, en fait, fait que, du coup, le fantôme reste là. Le désir de se venger aussi. Et souvent, c'est que l'âme du défunt, en fait, n'a pas compris ou n'a pas pris conscience, en fait, qu'il était mort. Et donc, il reste dans la maison.
Pour ceux qui y croient, hein, tout ça.
Pour ceux qui y croient.
Bon, non, un certain recul, quand même. On a l'impression que c'est du premier degré, mais...
sans qu'on y croit, il y en a.
C'est ça, voilà.
Voilà. Et de nos jours, en fait, d'ailleurs, c'était une croyance, en fait. Je veux dire, de nos jours, en fait, les fantômes, dans les témoignages, en fait, ne sont plus drapés de blanc, en fait, mais plutôt sont vêtus avec leurs habits, en fait, d'époque. Voilà. Donc, en fait, le premier fantôme, enfin, ou plutôt la première trace de fantôme qui apparaît, ça date de 3500 ans. Sur une tablette babylonienne qui représente des gravures de fantômes et même des instructions pour s'en débarrasser.
Ah, déjà à l'époque.
Ouais, donc
déjà
ça date.
Des invisibles,
hein. Voilà. Alors comment savoir si Gaspard est là dans votre maison ? Donc à votre avis, quels sont les signes en fait qui permettraient de se dire j'ai un fantôme chez moi ?
J'ai plus de draps.
Voilà.
J'ai plus de draps.
Et j'ai froid.
J'ai froid, ouais. Voilà.
Alors effectivement, donc, si vous sentez un courant d'air froid, j'allais dire courez fermer la fenêtre d'abord. Mais bon. Donc il y a ça. Il y a la porte qui grince. Il y a les bruits de pas. Le parquet qui craque. D'autres signes, souvent, ça peut être les lampes qui s'allument toutes seules. Et la télé ou la radio voilà, qui grésille. Alors
bon
que tout était éteint.
Pour vous aider, là, parce que...
Voilà aussi. oui, voilà, il vaut mieux vérifier d'abord. Hein, mais bon. Et la plupart du temps aussi, c'est un objet, voilà, les objets qui se déplacent en fait.
Ah,
mais en fait, les objets qui se déplacent, on est d'accord.
Ça met bien la puce à l'oreille, ça.
Ouais. Mais à mon avis, on n'en voit pas souvent. Mais par contre, ce qui est un petit peu plus qui peut être plus fréquent, c'est des objets justement qui sont, que vous avez posés à un endroit et que vous ne retrouvez plus et qui sont à un autre endroit.
Parce que vous étiez bourré la veille surtout.
Voilà, c'est ça. Donc après, il reste à savoir si c'est votre étourderie, votre mémoire qui flanche ou bien un fantôme.
L'alcool fait venir les fantômes, hein,
c'est ça. Connu.
Et donc, il y a aussi l'odeur, souvent on dit qu'il y, a une odeur de rose ou d'encens qui embaume la pièce.
Ah, ah bon. Je ne sais pas ça.
Voilà, non, souvent l'odeur de rose.
D'ailleurs. Le fantôme a une odeur.
Voilà. Un fantôme a une odeur.
Et une bonne, oui. Hein, parce qu'on aurait pu se retrouver avec un truc, une odeur d'égout ou
ouais,
autre.
Un fantôme qui pète, et pouf.
Et alors, pour s'en débarrasser, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que vous avez une idée?
L'aspirateur.
Bah, arrêter
l'aspirateur.
Ouais, pas mal.
Arrêter l'alcool.
Ouais, déjà.
La drogue aussi.
Ouais. Quoi d'autre?
Je sais pas, c'est...
En fait, c'est tout simple. La première étape, c'est soit lui demander de partir, tout simplement.
Bien sûr.
Ouais. Bon, faut écoute, commencer
ça,
par ça.
Faut pas rester là, madame.
Voilà. Soit il faut faire brûler de la sauge, parce que la sauge, ça, c'est ce qu'on nomme, c'est ce qui purifie la maison, en fait.
D'accord.
Voilà. Et ça sent moins bon que l'encens, du coup. Ouais. Voilà. C'est dommage.
Bah, c'est pas religieux ou un crucifix, dit Olivier, mais...
Oui, bah après, oui, il y a tout de ce qui est prière.
Non, ça, c'est les vampires. Ça.
C'est pas forcément lié à la religion, en fait, le fantôme. Hein.
Oui, c'est vrai.
Oui, non, pas forcément. Mais... D'ailleurs, il y a. Oui. Enfin bon, j'avais une distinction entre le fantôme et le revenant, mais bon, on va faire.
on va revenir sur le fantôme.
Et donc, le fantôme, finalement, il a aussi une fonction sociale, on pourrait dire. Voilà. Même si on... Parce que, même si c'est une croyance, en fait, c'est fait pour nous rassurer, finalement, sur la mort et sur la possibilité d'une vie après la mort. C'est un peu un symbole d'éternité, on pourrait dire.
Ça n'a pas l'air super cool, quand même. Hein. Le mec, il a une chaîne aux pieds, il veut se venger.
Bah, c'est aussi, ouais, alors c'est pour ça que j'ai dit symbole d'éternité, mais aussi peut-être de vie tourmentée d'un certain côté.
Il y a un fantôme à côté qui pleure.
Alors, souvent, il faut d'abord y croire effectivement pour le voir, le fantôme. Les fantômes se manifestent plutôt sur des gens qui y croient. Et figurez-vous qu'il y a seulement 13% des Français en fait qui y croient aux fantômes, contre 50% en Chine où il y a une fête des fantômes qui existe, même un mois, enfin il y a un mois complet même, voilà, qui est vraiment plutôt religieux. 51% aux États-Unis et 52% au Royaume-Uni qui y croient.
Ah oui, au Royaume-Uni avec le château et tout ça.
Donc, oui, quand même.
Alors, sachant que. En France,
on a plutôt peur en fait, des fantômes. Et au Royaume-Uni, les Anglais, eux, ils trouvent que c'est sympathique, c'est le gardien de la maison. Voilà, c'est ça.
Ils ont moins honte de dire
que. Nous, on a peur de Raphaël qui croit aux fantômes, c'est différent.
Et alors, figurez-vous que. Voilà, j'ai découvert ça. Figurez-vous qu'en fait, c'est un angevin, un juriste angevin qui s'appelle Pierre Leloyer, qui a inauguré la science des spectres, comme il l'appelle, vers 1600. En fait, sa mission, c'est de recenser tous les fantômes et les lieux hantés en France.
Oula.
Et donc, il en a écrit un livre vers 1600. Voilà.
Ça s'appelle
donc,
la nuée.
C'était un angevin. Comme quoi. Donc, les lieux de prédilection des fantômes sont souvent des châteaux, des villages abandonnés où le temps est suspendu. Et alors, à votre avis, quel est le lieu le plus hanté en France? En fait, un château qui est assez médiatisé, j'avoue.
Ah, le château de Brissac.
Alors, le château de Brissac, effectivement, mais c'était pas celui-là. Mais je vais y venir tout de suite, finalement.
L'arbre bleu.
Donc, le château de Brissac, il a sa dame verte. Il s'agit de Charlotte de Valois, assassinée par son mari pour cause d'adultère en 1477. Et alors, il paraît qu'il apparaît dans sa robe verte les soirs d'orage. Voilà.
Bah, l'autoroute avec la dame blanche, tout ça, non?
Oui, il y a ça, mais c'est pas tout à fait pareil. Non, un château, non, vous voyez pas?
Non.
Le château de Fougeray, en fait.
Ah oui,
voilà,
d'accord.
Dans la Vienne. Donc, c'est Véronique et son mari qui achètent et rénovent ce château en 2009. Elle est passionnée de château, en fait. Et à mesure des travaux, elle se rend compte qu'il y a plein de phénomènes étranges. Et des médiums sont venus, mais en fait, les fantômes, soi-disant, refusent de partir. Et donc, elle en a fait. Pas terrain business, mais finalement, voilà, on peut faire des visites le soir, voire dormir dans ce château hanté. Donc, oui, il y a sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos là-dessus.
Mm-hmm.
Alors, avez-vous remarqué qu'en fait, on ne parle que des maisons hantées ou des châteaux, mais en fait, personne ne pense aux jardins hantés.
Ah, il y a ça aussi.
Finalement.
Ah, mais
les
pelles,
jardins
les
hantés
pauvres.
Existent aussi.
Les maisons en L aussi.
Oui, les maisons en L, oui. Les maisons en lièvre.
J'ai pas compris.
C'est la forme des maisons.
D'accord. Donc, un exemple, celui du château de. Alors, c'est au jardin du château de Versailles, en fait, où Anne et Éléonore, ce sont des Anglaises, ont vu des personnes en habit d'époque. Alors, bon, est-ce que c'est pas vraiment
cool,
des fantômes,
jardin.
Mais je dirais que c'est une faille spatio-temporelle
bien
comme.
Sûr.
Comme dans Retour vers le futur.
C'est un tournage de film. Hein.
Oui, c'est ça, ils ont dû voir ça.
Et elles ont écrit un livre en 1911 qui s'appelle Anne Adventure, qui est un livre à succès.
Ok.
Et au jardin du Luxembourg, en 1925, un étudiant, Jean Romier, rencontre Alphonse Berruyer, sur un banc. Ils discutent et Alphonse Berruyer l'invite à un concert à son domicile. La soirée terminée, l'étudiant se rend compte qu'il a oublié son briquet, mais la porte de l'immeuble reste fermée. Il apprend qu'Alphonse est mort il y a 20 ans et récupère son briquet sous une couche de poussière.
Oh.
Alors, je termine. Oui, donc, que dit la science ? Pour les scientifiques, l'hypothèse des infrasons, c'est-à-dire les sons inaudibles à l'oreille en dessous de 20 Hz, pourrait expliquer l'apparition des fantômes, que seraient des hallucinations liées à la vibration du son qui déformerait notre perception. C'est leur hypothèse, en tout cas. En attendant, je vous laisse frissonner ou cogiter, fantômement votre.
Merci Sandra. Allez, on retrouve Franck Coty maintenant qui nous parle des plagiats. C'est pas beau de copier ses petits camarades.
Hey, comment vous allez bien? Salut, c'est Franck Coty. Connaissez-vous le tube Million Years Ago de Adele?
I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run.
Cette chanson ressemblerait à la chanson Asilama Tutunmak du chanteur kurde Ahmet Kaya. J'ai réussi à le dire. Ahmet Kaya est décédé en 2000 et c'est la veuve du chanteur qui décide de porter plainte. Enfin, seulement verbalement. Elle ne portera pas l'affaire en justice, mais déclarera dans la presse néanmoins, je cite, « Je ne peux pas croire qu'une personne au sommet de ce monde puisse faire cela, et si elle l'a fait consciemment, c'est du vol. » Voilà, c'est dit. Entendre qui voudra. Mais revenons à Oasis, qui s'est fait accuser de plagiat à nouveau par une marque concurrente. Ouais, c'est pas Oasis Tropical, c'est Coca-Cola. Alors Coca-Cola n'accuse pas le groupe Oasis d'avoir pris un nom de boisson pour faire sa com. Non, là il s'agit d'une vieille publicité sortie en 1971 contenant la chanson « I'd like to teach the world to sing in perfect harmony ». Ça, c'est la pub de Coca.
I'd like to buy the world a home and furnish it with love.
Et ça, c'est Oasis qui sort « Shaker Maker » en 1994. Coca-Cola décide donc de porter plainte et condamnera Oasis à payer 500 000 dollars de dommages et intérêts et de droits d'auteur aux ayants droit de la chanson. Suite à ça, le groupe Oasis s'est exprimé en annonçant qu'il ne boirait plus que du Pepsi désormais. Lorsqu'en 2006, Will.i.am et Justin Timberlake sortent leur chanson Damn Girl, ils ne se douteraient pas que 10 ans plus tard, une plainte serait portée contre cette chanson pour plagiat. En effet, en 2016, une société de production vient porter plainte pour plagiat concernant une vieille chanson sortie en 1969, A New Day Is Here At Last, une chanson enregistrée par J.C. Davis et écrite par l'auteur Perry Kibble. Perry Kibble, donc l'auteur de cette chanson, décédera en 1999. Et c'est sa sœur, l'héritière, qui obtiendra donc les droits de la chanson. Elle cédera ses droits en 2015 à la société PK Music Performance Group, et c'est cette dernière qui décide de porter l'affaire en justice. Et effectivement, à l'écoute, on se rend compte que Dan Girl a samplé la batterie, l'orgue, le saxophone et quelques riffs de guitare. Et tout ça sans autorisation. La société réclame une part des profits générés par la chanson. En 2019, c'est trois compositeurs britanniques qui accusent The Weeknd d'avoir plagié leur chanson, I Need to Love, sortie en 2004. Et la chanson de The Weeknd qui est accusée, c'est A Lonely Night. Les Anglais demanderont un dédommagement de plusieurs milliers de dollars, mais la plainte sera rejetée par le juge. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous kiffe les amis. Ciao!
C'était Franck Coty sur Radio G 101.5 FM en Maine-et-Loire et Fréquence Zik partout dans le monde. Vous pouvez les retrouver sur sa chaîne YouTube Franck Coty. Allez, l'heure est grave. Il y a 15 jours, nous avions parlé de cartes d'identité, de CBD, etc. Enfin, qui a gagné le verdict cette fois-ci de là, d'après vous, qui aurait pu gagner? Attention, verdict.
Yo de lait, 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 yo de lait
Eh bien, c'est la chronique de Manu avec le cache-sexe qui a été retenu. Donc, Manu n'est pas là ce soir, on l'embrasse. Hein. On salue aussi Mathias et Caroline, autre voix de l'émission CMA. Et pour écouter d'ailleurs la chronique de Manu sur le cache-sexe, eh bien, rendez-vous sur le site radio-g.fr, rubrique podcast, puis CMA+. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs de ce soir. Merci Sandra, merci Florian, merci Pauline, merci Olivier, merci Jérémy, merci Sonia. On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. D'ici là, eh bien, vous aussi soyez curieux de tout et n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.